ma vie était accrochée, on peut dire vraiment à celle de moment.
Le tatouage, qui donnait le sentiment d'une chose justement irrémédiable, et de devenir un numéro, je crois que c'est le premier événement qui a donné à penser que ça n'était pas seulement l'envoi dans un camp de travail, l'envoi dans une déportation ordinaire, je dirais.
Au fond, la faim ou la soif qu'on a vécue, ou le travail très dur, ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de déchéance, et d'essayer de lutter contre.
Simone Veil a disparu il y a presque 2 ans, et pour nous, elle reste et restera immortelle. Nous avons souhaité, 10 mois après sa panthéonisation, revenir sur son parcours, ses engagements, son itinéraire, ainsi que sur les enseignements qu'elle nous laisse aujourd'hui et aussi pour l'avenir. Elle demeure un exemple, une icône pour les jeunes générations, et son image va grandir. En compagnie de personnes comme Serge Klarsfeld, Annick Cogent, Robert Badinter, Annette Wieworka, nous avons désiré, tout au long de la semaine, rendre compte des différentes vies de Simone Veil. Chaque soir, en première partie d'émission, vous entendrez, interprété par Sandrine Bonner, des extraits de l'autobiographie de Simone Veil, intitulée « Sobrement, une vie » et publiée en 2007. Puis en seconde partie, il y aura le témoignage d'un de nos invités et évidemment beaucoup d'archives de la voix de Simone Veil. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Ce soir, ça sera Édith Piaf, « Plus bleu que tes yeux ». Et ensuite, lecture par Sandrine Bonner d'extraits du début du livre de Simone Veil consacré à son enfance niçoise.
Lorsque je lève les yeux, je rencontre le ciel et je me dis, mon Dieu, mais c'est sensationnel, tant de bleu. Lorsque je lève les yeux, je rencontre tes yeux et je me dis, mon Dieu, c'est vraiment merveilleux, tant de bleu. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter, mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur. Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait court. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie. On a tort de penser, je sais bien, au lendemain. À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blond que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes je ne vois que les rêves que m'apportent tes yeux.
Jeunesse. Extrait du chapitre Une enfance niçoise. Lorsque je repense à ces années heureuses de l'avant-guerre, j'éprouve une profonde nostalgie. Ce bonheur est difficile à restituer en mots, parce qu'il était fait d'ambiance calme, de petits riens, de confidences entre nous, d'éclats de rire partagés, de moments à tout jamais perdus. C'est le parfum envolé de l'enfance. D'autant plus douloureux à évoquer que la suite fut terrible. Nos loisirs étaient simples, car hormis la lecture, notre père ne tolérait pas la musique à la radio ou une sortie au cinéma que de façon exceptionnelle. Je n'ai d'ailleurs gardé aucun souvenir des rares films que nous avons pu voir à cette époque. Nous passions l'essentiel de notre temps libre en famille, entre nous, ou plus tard, lorsque nous avons grandi, dans le groupe des éclaireuses, dont nous faisions partie. En fait, je n'avais pas vraiment la sensation d'une coupure entre la vie familiale et celle que je menais en dehors de la maison, au lycée ou avec les éclaireuses. L'ensemble formait un environnement homogène, ce qui créait une sensation sécurisante.
Avant 1936, seuls les fonctionnaires et les employés des banques avaient droit aux vacances. La loi du 20 juin 1936 devait accorder 15 jours de congé à tout le monde.
L'été, nous partions en vacances familiales à La Ciotat, dans la maison que mon père avait construite. L'emploi du temps était chargé entre la plage, les jeux dans le jardin, les sorties avec nos cousins. À Nice, ma meilleure amie m'accompagnait depuis la 8e. C'était une fille malheureuse chez ses parents, avec lesquels elle s'entendait mal. Des juifs d'origine polonaise arrivés en France après le référendum de 1935, rattachant la Sarre à l'Allemagne. Et nous étions très proches, et maman l'accueillait volontiers. Avec deux autres éclaireuses, nous formions un quatuor inséparable. Le cancer a trop tôt emporté mes trois amis. Leur absence me pèse encore. La politique à cette époque entrait à pas feutrés dans ma vie de lycéenne. J'étais en 7e lorsque le Front populaire remporta les élections de 1936. Les élèves des plus grandes classes étaient très impliqués. Elles portaient des insignes politiques, discutaient avec vivacité et commentaient les événements, les défilés, les grèves. L'une d'entre elles affichait dans sa chambre le portrait du colonel de La Roque, chef des Croix de Feu. Quelques années plus tard, la même, résistante dans le réseau franc-tireur, fut déportée à Ravensbrück. Toute cette effervescence était nouvelle pour moi. D'une part, la politique n'avait pas droit de citer à la maison. D'autre part, j'ai appris plus tard que mes parents ne partageaient pas les mêmes opinions. J'ai conservé des souvenirs précis des premières années de l'Allemagne nationale socialiste et de la montée de l'antisémitisme. Les Français cultivaient le souvenir de la Première Guerre mondiale et évoquaient l'hécatombe qui avait décimé les familles. La guerre était restée omniprésente et le péril allemand obsédant. Lorsque mon père évoquait les Boches, car il ne disait jamais les Allemands, c'était toujours avec colère. Il les détestait. Lorsque maman, par exemple, disait « Si on avait écouté Briand ou Stresemann, nos pays se seraient réconciliés et il n'y aurait pas eu Hitler », mon père répliquait « De toute façon, on ne peut jamais s'entendre avec les Boches. » Il reste que pendant des mois, sinon des années, peu de personnes ont compris ce qui se passait outre-Rhin. L'été 1934, pendant nos vacances à La Ciotat, maman jouait au tennis avec un jeune homme de retour d'Allemagne après un séjour de plusieurs années. C'était Raymond Aron. Il lui raconta ce qu'il avait vu à Berlin, la violence des rues, les autodafés de livres organisés par les étudiants de l'université. Bref, la montée du nazisme. Personne ne voulait le croire. Et puis très vite, des juifs allemands se sont réfugiés à Nice. La communauté juive s'est aussitôt organisée pour les accueillir. C'est que le flot des réfugiés ne cessait de croître. L'un des fils de Freud s'était installé à Nice comme photographe. Nous sommes devenus très amis avec sa fille, Eva, une camarade intelligente et pleine de charme. Elle fréquentait notre lycée et appartenait au même groupe d'éclaireuses que nous. Un peu plus âgée que moi, elle a connu par la suite un destin tragique puisqu'elle est morte peu de temps après, loin de ses parents, partie pour la Grande-Bretagne. Nos tabous familiaux en matière de politique étaient tombés. La montée de l'hitlérisme les avait abolis. Désormais, L'afflux des réfugiés et les témoignages dont ils étaient porteurs alimentaient toutes les conversations. Certaines personnes qui avaient fui l'Allemagne nationale socialiste rapportaient que les opposants politiques étaient internés dans un camp de concentration à Dachau, dans la banlieue de Munich. Ils évoquaient aussi les vitrines des magasins marqués de l'étoile de David. On ne parlait pas encore des déportations de juifs, mais tout le monde comprenait que la situation en Allemagne suivait un cours angoissant. J'ai un souvenir précis de l'effroi que j'ai éprouvé en voyant quelques actualités cinématographiques, consacrées du reste non pas à l'Allemagne, mais à la guerre d'Espagne et la situation en Chine. J'avais une peur terrible de la guerre, une sorte d'intuition précoce et exacerbée. Vision prémonitoire des futurs périls. C'est ce que prétendait ma sœur Milou, qui me l'a souvent rappelé par la suite. C'est toi qui étais à la fois la plus inquiète et la plus lucide sur la situation. Tu étais la seule à pressentir ce qui allait arriver.
Laissant à la Gestapo, police spéciale du Troisième Reich, le temps de faire son œuvre, le Führer, après s'être arrêté successivement dans les principales villes qui jalonnent la route de Munich à Vienne, fait une entrée spectaculairement triomphale dans la capitale autrichienne. Par arrêté de police, ce jour, qui marque une page de l'histoire européenne moderne, avait été déclaré férié. Et derrière les automitrailleuses, parmi les hommes en armes, Hitler, acclamé, arrive en conquérant à l'hôtel impérial devant lequel une foule immense s'est massée. Après avoir félicité les artisans de cet Anschluss médité et parfaitement organisé, le chancelier du Reich apparaît au balcon où ont pris place en même temps les généraux allemands et M. Seyss-Inquart, représentant autrichien de l'autorité centrale de Berlin.
Au printemps 1938, avec l'Anschluss, la tension est encore montée d'un cran. À l'automne, les accords de Munich n'ont pas dissipé le malaise. À la maison, tout le monde y était hostile. Maman, bien sûr, parce qu'elle voyait ce que le pacifisme occultait de danger, mais aussi papa, soucieux de prendre au plus vite une revanche sur ses boches, nos ennemis héréditaires. Dans l'été 1939, l'entrée en guerre a été vécue par certains comme un soulagement. Dans les mois qui ont suivi, on plaisanta beaucoup à propos de la drôle de guerre. Je ne partageais pas ce soulagement. Je me revois disant à ma sœur, « Tu sais, nous, on est convaincus qu'on va gagner. Mais les Allemands sont aussi persuadés qu'ils vont gagner. » Ce n'était pas pessimisme de ma part, mais ce trait de caractère que j'ai conservé avec la manie de penser que les choses ne vont pas forcément de pair avec les vœux que l'on forme. Pour autant, nous étions loin de nous douter de ce qui nous attendait. D'abord, au fil de mois interminables, l'attente des combats. Ensuite, la défaite. L'armistice, le régime du maréchal Pétain. Enfin, les lois raciales et le déchaînement de la violence contre les Juifs. En un mot, ce que nous ignorions au sein de cette famille heureuse où l'on venait de fêter mes 11 ans, puis mes 12 ans, c'est que le paradis de l'enfance était en train de s'engloutir. Extrait du chapitre L'Anas. Était-ce un signe avant-coureur ? Les choses se sont bel et bien déroulées ainsi. L'annonce de la déclaration de guerre, le 1er septembre 1939, demeure dans ma mémoire étroitement liée à des vacances interrompues par une maladie tardivement identifiée. J'avais à peine 12 ans, et comme chaque été après la fin des classes, mes sœurs et moi étions partis avec les éclaireuses. Nous campions au mont Aigoual. Un soir, alors que je me plaignais d'un mal de gorge, une amie me lança. Tu dis ça parce que tu ne veux pas aller chercher du bois pour le feu ? Je n'ai rien répondu. Mais très vite, le mal gagna d'autres filles. Et au bout d'une dizaine de jours, le médecin diagnostiqua une épidémie de scarlatine. Chacune de nous devait regagner son foyer pour enrayer la contagion. Mes sœurs et moi avons alors rejoint mon oncle et ma tante, médecins, ainsi que leurs enfants dans leur maison de la région parisienne, pour y poursuivre nos vacances. Un jour, je fis voir mes mains à mon oncle. Elles pelaient de façon spectaculaire. L'un des symptômes de cette maladie, il a déduit du calendrier que c'était moi qui avais dû transmettre la scarlatine à tout le monde. Mais que la maladie arrivait désormais à son terme. Décidément, il n'y a pas de justice. Mes sœurs avaient été beaucoup plus souffrantes que moi. Le 1er septembre, nous sommes donc rentrées toutes les trois à Nice avec notre frère. C'est en y arrivant que nous avons appris la déclaration de guerre, triste couronnement de ces vacances ratées. L'été 1939 finissait mal. Prévue ou non par les experts, l'offensive allemande se déclencha le 10 mai 1940. Telle la foudre, mettant un terme au ronron illusoire qui nous berçait depuis des mois. Les événements se sont précipités. Un mois, jour pour jour, après le début du Blitzkrieg, mon père m'emmena faire une visite à une vieille tante qui résidait à Cannes. Lors d'un arrêt en gare d'Antibes, Nous avons entendu un vendeur de journaux claironnant sur le quai. Les Italiens nous poignardent dans le dos. C'était l'annonce que Mussolini déclarait à son tour. La guerre à la France. La réaction immédiate de papa montra à quel point la nouvelle le bouleversait. Dès le retour à la maison, il nous expliqua que les Italiens allaient annexer le département des Alpes-Maritimes, affirmant avec certitude « Nice risque d'être détachée de la France, et nous ne pourrons plus aller en France ». Le propos me paraissait pessimiste, mais savait-on jamais ? La revendication des Italiens sur le comté de Nice était de notoriété publique. Papa a aussitôt voulu nous mettre en sécurité en nous envoyant tous les quatre rejoindre notre oncle et tante, qui, à l'annonce de l'entrée en France des troupes allemandes, s'était réfugié près de Toulouse. Il nous a fourrés dans le train dès le lendemain, et nous sommes arrivés là-bas sans encombre. Tout le monde était suspendu à la radio, en quête de la moindre information. C'est ainsi que le 18 juin, nous avons entendu l'appel d'un certain général de Gaulle.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie.
Mon oncle et ma tante ont aussitôt décidé d'essayer de rejoindre Londres. Il n'était pas question de nous emmener et nous sommes donc repartis chez nous, aussi vite que nous étions arrivés. Je revois maman nous attendant sur le quai à Marseille. Nos retrouvailles furent émues. Nous étions à nouveau réunis. Notre rentrée s'est effectuée normalement. Le lycée le jour, la vie de famille le soir, les éclaireuses, les jours de congé. En revanche, notre situation matérielle s'est rapidement dégradée. L'hiver a été très froid et nous avions de réelles difficultés à trouver du charbon. Les restrictions alimentaires n'ont pas non plus tardé à survenir. Il est bien connu que la région de Nice produit plus de fleurs que de légumes et de laitage. La population vivait donc très mal, et nous de même. Dans ce contexte, quelle qu'ait été notre attention aux nouvelles en provenance de Vichy, nous avons été frappés de stupeur à l'annonce, dès octobre, du premier statut des Juifs. Notre père, très ancien combattant, admettait difficilement que ces dispositions portent la griffe du maréchal Pétain. On sait ce qu'il en était. Les Juifs faisaient désormais l'objet d'une ségrégation administrative, parfaitement scandaleuse au pays des droits de l'homme. Étaient Juifs. Quiconque possédait trois grands-parents juifs, mais seulement deux s'il était lui-même marié à un conjoint juif. Ainsi défini, les Juifs se voyaient interdire toute activité dans le secteur public et la sphère médiatique, tandis que l'exercice d'autres professions était soumis à des quotas restrictifs. C'est ainsi qu'en décembre 1940, deux de mes enseignantes durent quitter leurs fonctions. Quant à notre père, qui n'avait déjà plus beaucoup de travail depuis des années, il se vit retirer le droit d'exercer son métier. Par chance, des amis architectes l'aidèrent en lui confiant quelques tâches. Mais son activité était d'autant plus marginale que même manquait de chantier. Le tableau s'assombrissait donc. L'austérité venue, tout devint plus difficile et les quatre adolescents que nous étions alors en furent marqués. Nous sentions maman trop dépendante de papa et nous n'aimions pas cela. Elle, qui n'avait jamais travaillé et donc jamais connu la moindre autonomie financière, avait à rendre des comptes détaillés. Nous étions sensibles aux mises en garde qu'elle multipliait à notre intention. J'en ai conservé un souvenir ému et une leçon inoubliable. Il faut non seulement travailler, mais avoir un vrai métier. Aussi, lorsque beaucoup plus tard, mon mari s'est aventuré à me suggérer que l'éducation de nos enfants pourrait peut-être me dispenser de travailler, ai-je fermement écarté cette hypothèse. Entre-temps, dès 1941, il avait été fait obligation aux Juifs de se déclarer. D'abord les étrangers, nombreux à Nice, puis les Français. Qu'est-ce que cela voulait dire? N'étions-nous pas Français au même titre que les autres? Cependant, comme la presque totalité des familles juives, nous nous sommes pliés à cette formalité, habitués à respecter la loi, et sans trop vouloir nous interroger sur ses implications. Le présent était suffisamment pénible pour qu'on ne se pose pas de questions sur l'avenir. D'ailleurs, nous n'avions pas à rougir de ce que nous étions. Ai-je besoin de dire que je m'étais montrée plus réticente que les autres ? Ainsi parvenions-nous à survivre. En veilleuse, dans un environnement où, au fil des mois, l'afflux des réfugiés ne diminuait pas. Nous rencontrions de plus en plus de familles juives, en si grande détresse que nous ne les logions pour quelques jours. Pour tout dire, leurs soucis de pratiques religieuses nous laissaient pantois. Pour la première fois, nous voyions des gens respecter le Shabbat, qui passe sur la tête. On a tendance, sans rien faire, que la journée s'écoule. Tout cela dans le noir, aussi longtemps que nous, qui ne subissions pas les mêmes interdits. Tardions à leur allumer la lumière. Après la chute de Mussolini dans l'été 1943, les Italiens signèrent un armistice et quittèrent la région. On entra dans la tragédie. Le 9 septembre 1943, la Gestapo débarquait en force à Nice, avant même les troupes allemandes. Ses services installés à l'hôtel Excelsior, en plein centre-ville, et déclenchaient sans coup férir la chasse aux Juifs, que les Italiens avaient refusé de mettre en œuvre. Les arrestations massives commencèrent aussitôt. Elles étaient conduites par Alois Brunner, déjà célèbre à Vienne, Berlin et Salonique, avant de diriger le camp de Drancy. Ma meilleure amie, camarade de lycée, éclaireuse comme moi, fut ainsi arrêtée le 9 septembre, ainsi que ses parents. Je devais apprendre plus tard qu'ils avaient été gazés à leur arrivée à Auschwitz-Birkenau. À compter de cette date, les choses ont radicalement changé pour les Juifs français, alors que peu d'arrestations avaient eu lieu précédemment. Nos papiers d'identité devaient désormais porter la lettre J. J'ai senti le danger de cette mesure avant le reste de la famille et voulu m'opposer à ce tampon. Mais comme lorsqu'il s'était agi d'aller se déclarer aux autorités, nous avons subi la mesure avec un mélange de résignation, de légalisme et, je dois le dire, de fierté. Nous ignorions de quel prix il nous faudrait bientôt payer cette franchise. Dès les premières arrestations, nous avons compris. Le temps n'était plus à assumer ce que nous étions. Il fallait au contraire tenter de se noyer dans la masse anonyme, de devenir, autant que possible, invisible. En ce début de septembre 1943, mes deux sœurs participaient encore à un camp de Cheftaine. Notre père, très inquiet et à bon escient, les a prévenues de la situation en leur recommandant de ne pas regagner Nice. Denise a suivi son conseil et rapidement rejoint le mouvement de résistance franc-tireur dans la région lyonnaise. Mais Milou est rentrée. Elle ne voulait pas abandonner son travail, qui contribuait à faire vivre la famille. Convaincus des dangers, mes parents ont alors décidé de faire front en se procurant de fausses cartes d'identité. Puis nous nous sommes éparpillés, mes parents chez un ancien dessinateur de mon père, des gens simples et généreux, qui leur ont tout de suite offert l'hospitalité. Par la suite, pendant toute la durée de notre déportation, ils allaient héberger ma grand-mère venue nous rejoindre. Milou et moi logions dans le même immeuble, chez d'anciens professeurs. Elle chez son professeur de chimie, moi chez un professeur de lettres. Mon frère Jean était hébergé ailleurs par un troisième couple. Avec cette dispersion munie de fausses cartes d'identité, nous nous imaginions à l'abri. Ma sœur continuait à travailler. Je poursuivais mes cours au lycée et n'hésitais pas à sortir en ville avec mes camarades. Disons-le sans détour, nous étions inconscients. À chaque sortie, je me rassurais en me persuadant que ma fausse carte d'identité suffirait à me protéger. Pourtant, à Nice, plus encore qu'ailleurs, le danger courait les rues. C'est là que la plupart des gens se faisaient arrêter lors des contrôles inopinés. En dépit de tous les efforts qu'elle déployait, secondée par ses indicateurs et ses physionomistes, la Gestapo ne parvenait pas à effectuer des rafles aussi efficaces que dans d'autres villes. D'une part du fait de la réelle solidarité des Niçois entre eux, d'autre part parce que la police française était de moins en moins portée à collaborer.
Deux mois après la capitulation germano-italienne en Afrique, les Alliés débarquent en Sicile. L'opération Husky est la première opération amphibie en Europe. La voie est ouverte par l'aviation et la marine qui bombardent et neutralisent les petites îles dont on a besoin comme base aérienne. 3200 navires emmènent 160 000 soldats alliés à travers le canal de Sicile.
Il est vrai qu'en ce début de l'année 1944, la population était de plus en plus convaincue que les rapports de force commençaient à s'inverser et qu'un jour ou l'autre, le débarquement des Alliés sonnerait le glas de la domination allemande, comme celui de Sicile avait déclenché l'effondrement du pouvoir en Italie. En même temps que croissait cette dernière espérance, nourrie par l'évolution de la situation militaire à l'Est, comme en Italie, la Gestapo redoublait les contrôles et la traque. Nombre de nous en firent les frais. Nous avions été prévenus dès les premières semaines de l'année scolaire que les épreuves du bac se dérouleraient non pas en juin, selon le calendrier habituel, mais dès fin mars, et ne comporteraient que des épreuves écrites. Les autorités niçoises voulaient en effet clore l'année scolaire le plus tôt possible, par crainte d'un débarquement allié et des troubles qui en découleraient. Elles envisageaient même l'évacuation de la ville en cas de nécessité. Des blocos avaient été érigés le long de la mer et d'autres mesures de protection prévues. J'ai donc passé mes épreuves le 29 mars, sans rencontrer le moindre problème et sous mon vrai nom. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec des amis pour fêter la fin des examens. Je m'y rendais avec un camarade lorsque soudain, deux Allemands en civil nous arrêtèrent pour contrôle d'identité. Ils étaient escortés d'une de ces Russes dont Nice regorgeait alors et dont certains n'avaient eu aucun scrupule à se mettre au service des Allemands. Un rapide regard sur ma carte d'identité leur suffit. Elle est fausse. Je me défendis avec un parfait aplomb. Mais pas du tout. Ils refusèrent de discuter et nous conduisirent aussitôt à l'hôtel Excelsior, où la Gestapo menait les interrogatoires des personnes interpellées. Le mien n'a pas duré longtemps. Tandis que je m'acharnais à répéter que mon nom était bien celui qui figurait sur mes papiers, l'un des Allemands m'a désigné d'un geste une table sur laquelle se trouvait une pile de cartes d'identité vierge, mais dont la signature, facilement reconnaissable à son encre verte, était identique à la mienne. Le ton était aimable, mais ironique. Votre carte d'identité, on en a autant que vous voulez. Je suis restée sans voix. Avait-il raflé tout un stock? Ou avait-il réussi à mettre en circulation des fausses cartes? Rien n'était impossible. Je me suis alors dit, toute la famille a les mêmes cartes que moi. Il faut les prévenir. J'ai donc fourni une fausse adresse aux Allemands, avant de supplier le camarade non-juif avec lequel j'avais été arrêté et qui s'apprêtait à ressortir libre de l'hôtel Excelsior, de prévenir ma famille. S'est alors produit un tragique concours de circonstances. Ce jour-là, mon frère Jean avait rendez-vous avec maman. S'étant manqué, chacun de son côté se rendit à l'endroit où j'habitais et où, à un autre étage, vivait aussi ma sœur Milou. Tous les trois, au même moment, se retrouvèrent ainsi pour la première fois dans l'escalier de l'immeuble. Et comme le garçon qui devait les prévenir avait été suivi par la Gestapo, le coup de filet fut rapide. L'arrestation s'est ainsi effectuée de la façon la plus absurde qui soit. Maman, Milou et Jean étaient sortis de chez eux, comme moi-même, 2-3 heures plus tôt, convaincus que leur carte d'identité les protégeait. En les voyant arriver à l'hôtel Excelsior, j'ai tout de suite eu le sentiment qu'une nasse se refermait sur nous et que nos existences prenaient dès lors un tour dramatique. Désormais, il était inutile de lutter. Même si mon frère n'était pas circoncis, nos fausses cartes suffisaient à nous dénoncer comme juifs. Nous tentions pourtant de nous rassurer en nous répétant que le pire n'est jamais certain. Maman, elle, conservait l'espoir et dans notre malheur se réjouissait que nous soyons ensemble. Pendant la semaine que nous avons passée à l'hôtel Excelsior, nous n'avons pas eu à subir de sévices. Nous mangeions même de façon plus convenable qu'à l'extérieur. Je me rappelle que, parmi les SS qui nous gardaient, un Alsacien se montrait compatissant avec les détenus. Savait-il ce qu'il nous attendait? J'en doute. Nous pouvions écrire à des amis si nous le désirions, nous faire apporter des affaires personnelles, des livres, des vêtements chauds, de sorte qu'aussi extraordinaire que cela paraisse, ces 6 journées se sont écoulées dans l'incertitude et l'appréhension, mais pas dans l'angoisse que l'on aurait pu imaginer. Thank you.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez une semaine exceptionnelle consacrée à Simone Veil, l'immortelle. Ce soir, Simone Veil par Simone Veil, grâce aux archives. Ce soir, vous allez écouter différents entretiens qu'a accordé Simone Veil à plusieurs journalistes, notamment à Patrice Gélinet, un entretien daté du 1er janvier 1988, un entretien avec Frédéric Mitterrand le 13 janvier 2007. Mais tout de suite, nous commençons par écouter la voix de Simone Veil, évoquant son enfance et sa relation à sa mère et sa sœur aînée. C'est une archive INA du 2 mars 2005. C'était au micro de Philippe Bertrand.
Enfant, pendant très longtemps, je n'ai pas eu beaucoup de projets de vie. Je voulais profiter du bonheur que j'avais. Le plus grand bonheur que j'avais, c'était ma mère. Et donc, ma vie était accrochée, on peut dire, vraiment à celle de moment. J'étais la plus jeune, nous étions 4 enfants très rapprochés, puisque entre ma sœur aînée et moi, il y avait moins de 5 ans. Quoique la différence d'âge ne soit pas très grande, j'étais tout de même considérée comme la petite gâtée. Et surtout, moi, je m'étais appropriée maman. Alors, je faisais une exception un peu pour ma sœur aînée, parce qu'elle était un peu ma mère de substitut. Quand maman n'était pas là, qu'elle sortait peu, c'était en vue en province, à Nice, oui. Mais nous allions aux éclaireuses, par exemple, quand j'avais déjà 10-11 ans. J'étais donc plus une gamine, tout à fait. Eh bien, j'avais le sentiment que maman lui déléguait, en quelque sorte, le soin de apporter ce qu'elle ne pouvait me donner pendant ce laps de temps où nous étions ensemble. Ma sœur a été ma cheftaine aux éclaireuses et elle joue un très très grand rôle dans ma vie. Et je dois dire qu'après la disparition de maman dans les camps, comme nous avions été tout le temps, toutes les trois ensemble, elle a été pour moi une mère, enfin... Ce qui fait que quand elle a disparu dans un accident de voiture en 1953, ça a été pour moi un nouveau deuil aussi lourd, presque plus lourd que celui de maman, parce que maman est morte dans les camps. Elle était tellement épuisée, tellement dans un état effroyable que c'était plutôt un soulagement. Tandis qu'un accident de voiture brutal, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est ça qui a compté dans ma vie et qui m'a guidée, parce que l'une comme l'autre... étaient des personnalités très, très exceptionnelles. Sur le plan du rayonnement, de la bonté, de l'attention aux autres, et aussi de savoir respecter un certain nombre de choses. Alors, elle trouvait que j'étais un peu trop irrévérencieuse, ou légère.
L'arrestation.
Dans la rue, j'avais des faux papiers. Et je pensais que ces faux papiers présentaient suffisamment de garanties et que... je sortais très peu, mais enfin, c'est vrai que j'aurais dû rester totalement cloîtrée, sans doute. Et j'ai été, par hasard, comme ça, il y avait des contrôles dans la rue, et par deux personnes en civil qui m'ont demandé mes papiers. Et en réalité, ces papiers étaient assez caractéristiques, et probablement, et ils avaient été mis sur le marché, peut-on dire, par la Gestapo elle-même.
Lorsqu'on arrivait, si on était arrêté, on restait 8 jours à Drancy, quelquefois 15 jours, mais peu de temps. Et dès qu'on arrivait, on était encore avec, il y avait encore des enfants qui étaient avec nous, etc. Parce que les enfants, il y avait beaucoup d'enfants petits. Il y avait une rampe. On arrivait à minuit, 1h du matin, mais les gens vous expliquaient qu'il fallait se mettre en rang, qu'il fallait laisser toutes ses affaires dans le wagon, etc. Et puis, ils vous demandaient aussi quel âge on avait. Parce que si on avait 15-16 ans, on avait des chances d'entrer dans le camp, et sinon, on n'en avait pas.
Nous étions une centaine par wagon. On ne pouvait même pas se coucher, qu'on se relayait, qu'on avait soif, qu'on avait faim, qu'on étouffait. Au milieu de la nuit, on arrive et on se dit, est-ce que, comme souvent, enfin, au cours du voyage, les wagons sont arrêtés souvent, mais là, on voit tout de suite qu'il y a des projecteurs, beaucoup de lumière, c'est au milieu de la nuit. Le train s'arrête, des bagnards qui crient, des SS qui crient aussi, pour qu'on descende très vite, raus, schnell... une espèce de vision absolument extraordinaire, dans des projecteurs énormes, et une vision de fou, dans laquelle on ne peut même pas... Enfin, On ne comprend même pas ce qui se passe. Des questions qu'on ne comprend pas non plus, faites par ces gens dont on ne sait pas pour l'instant qui sont déportés, on ne sait pas qui sont ces bagnards, des hommes, et qui vous demandent quel âge vous avez. Et on comprend ensuite que si vous demandent votre âge, c'est parce que c'était l'âge qui faisait qu'on allait d'un côté ou de l'autre au moment de la sélection. Et puis on se fait mettre en rang les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et on passe devant les SS. Et on dit, oh mais non, mais il y a ceux qui vont vers les camions, ceux qui vont aller à pied au camp. J'étais avec ma mère et ma sœur. Ma mère faisait jeûne. Et elle avait 44 ans. Et ma sœur était un peu plus âgée que moi. Exceptionnellement, nous nous sommes trouvés dans toutes les trois admises dans le camp. Puis nous sommes allés à pied, nous, en se disant, bon, ben, on va retrouver les autres. Et puis, pour la nuit, nous sommes mis dans une espèce de grand préau. Simplement, celles d'entre nous qui avaient été séparées de leur famille commençaient à s'inquiéter de savoir ce qu'était devenu le reste de leur famille, soit leurs enfants, soit leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Durant cette première nuit, nous n'arrivions pas à avoir de réponse. Vous verrez, c'était la réponse qu'on entendait. Puis le matin, très tôt, on a été réveillés. On a commencé les séances, je dirais, à la fois la procédure, l'enregistrement dans le camp, on a commencé que le matin, et aussi la prise de conscience de ce que c'était. La première opération, c'était le tatouage. C'était déjà une impression, je veux dire. Le tatouage, qui donnait le sentiment d'une chose, justement, irrémédiable, et de devenir un numéro, je crois que c'est le premier événement qui a donné à penser que ça n'était pas seulement l'envoi dans un camp de travail, l'envoi dans une déportation ordinaire, je dirais. Et puis, comme c'était aussi le contact un peu plus important avec les déportés que nous n'avions pas eu jusque-là, ce sont les questions qui ont commencé avec les réponses brutales, disant, mais les gens qui sont montés dans le camion, à cette heure-ci, ils sont morts. On ne pouvait pas imaginer, ce qui fait que le choc de dire c'est fini. D'ailleurs, vous verrez, si vous vous penchez là à travers la fenêtre, vous pouvez voir la fumée. Je crois que personne ne peut croire ça.
Je dois dire que de plus en plus, je suis un peu inquiète par ce mélange. Parce que, tout d'abord, celles qui ont fait de la résistance et qui ont été arrêtées pour résistance, parce que quelquefois il arrivait aussi que ce soit des juifs qui soient dans la résistance, qu'elles arrivent à cacher le fait qu'elles étaient juives, sinon elles étaient envoyées à Auschwitz. Mais que c'était quelque chose de tout à fait différent. Tout à fait différent, d'abord parce que les camps étaient tout à fait différents, souvent. Je fais une réserve pour convoi de femmes qui n'étaient pas juives et qui a été à Auschwitz et qui étaient des communistes. Elles ont d'ailleurs ensuite rejoint les autres à Ravensbrück. Mais ce qui me paraît important, c'est de faire justement cette différence. Ma sœur a été, j'ai une sœur qui était dans la résistance. Elle n'a jamais dit à personne qu'elle avait fait la résistance. Elle était sous un faux nom. La situation était totalement différente. Pour ce qui concerne les Juifs, la première chose qu'il faut signaler, tout de même, c'est qu'ils étaient systématiquement arrêtés, surtout à partir de 1942-1943. Alors c'est tout de même une situation qui n'a strictement rien à voir. Elle n'a d'autant plus rien à voir que c'est ce qui marque la déportation des Juifs, c'est que non seulement il y a ceux qui ont été à Auschwitz, où j'ai dit qu'il n'y avait pas d'enfants et que tous avaient été emmenés, que souvent les mères n'ont pas voulu se séparer de leurs enfants, donc ont été directement à la chambre à gaz, mais que aussi on était destinés, on peut dire, à mourir. Et qu'un certain nombre de convois ont été envoyés vers des camps dans lesquels il y avait en tout une quinzaine de personnes pour vous accueillir, et puis tous les autres allaient directement à la chambre à gaz. Donc tout ça n'a strictement aucun rapport, ni le quotidien, ni surtout la volonté, en définitive, d'exterminer tous les Juifs.
Je crois qu'il faut que les gens se rendent, peut-être dire des choses très concrètes, qui restent pour moi tout le temps dans ma mémoire, mais dans la mémoire de beaucoup d'autres. Ma mère était très malade. Elle ne pouvait plus se défendre elle-même, non seulement elle ne pouvait plus se défendre, mais elle ne voulait pas se défendre. Et c'est vrai que quand elle avait un bol de soupe, elle se laissait prendre son bol de soupe, pas seulement parce qu'elle ne pouvait pas le prendre, mais parce qu'elle préférait le donner en se disant que quelqu'un d'autre pouvait peut-être, si elle lui volait son bol de soupe, c'est qu'elle en avait plus besoin. Eh bien moi, je considérais, comme sa fille, que je devais la défendre, et j'empêchais qu'on lui vole son bol de soupe. C'est le genre de question, je dirais encore plus gravement, quand nous avons fait cette grande marche entre Auschwitz et Gleiwitz, il y avait des gens qui s'accrochaient à elle. Et je disais, non, ou bien vous tenez debout, mais vous ne vous accrochez pas à elle, parce que sans ça, vous tomberez tous les deux. Voilà, c'était ça la vie au camp aussi.
Presque tout le monde a eu le typhus. Moi, j'ai eu le typhus beaucoup moins fort que d'autres, mais presque tout le monde a eu le typhus, et c'était aussi une maladie qui atteint les centres nerveux. Enfin, espèce de monde qui n'existe plus. Il n'y avait plus aucune règle, il n'y avait plus rien. C'était un spectacle de Bruegel. Tout à fait, ou de Bosch. C'était ce qu'on a vu. D'images du Moyen-Âge ou de les cadavres au bord de la route, des formes se traînant pour essayer d'aller. Il y avait quatre mares dans le camp, enfin, il y en avait une qui était une mare ignoble. Et les déportés qui étaient entourés de barbelés, parce que c'était la seule réserve d'eau. Et les déportés passaient sous les barbelés, c'était gardé par un cesse. Les déportés essayaient tout de même de passer pour essayer de prendre l'eau dans cette mare. Et naturellement, comme il y avait des SS qui le gardaient, ils se faisaient chaque fois tuer. Mais on tenait plus à la vie, on avait de toute façon plus du tout envie de vivre. Je dirais que pour moi, dans les choses physiques, ce qui me... Si j'essaye non pas de penser maintenant, mais d'essayer de me souvenir de l'époque, c'est le manque de sommeil. Je me souviens, les derniers mois de Belzen, je n'ai pas dormi pratiquement, parce que je n'avais pas d'endroit pour dormir. Je rentrais du travail et je rentrais dans un bloc où il n'y avait même pas un endroit pour s'asseoir. Alors on restait debout, on ne dormait plus. J'avais l'impression d'être... folle de ne pas dormir, une espèce d'angoisse permanente, d'espèce de situation où je dormais debout, une sorte de somnambule, puis d'humiliation atroce de la maladie. Et je crois que c'est ça qui est, au fond, ce que... On était dans un tel état de déchéance physique et mentale, même. Vous savez, même au point de vue mental, moi, on avait le moment... Le sentiment par moment, par exemple, qu'on ne saurait plus lire, qu'on n'avait plus la capacité de réfléchir à quelque chose. Il n'y avait donc plus que des instincts. Et je dirais que c'est peut-être une des choses qui est la plus angoissante, c'est ce sentiment de se dire, est-ce que je suis encore un être humain? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de basculer vers quelque chose qui est purement l'instinct de vie, et l'envie de mourir, d'ailleurs. L'envie de mourir. L'envie de mourir et en même temps de se dire... sachant que c'est la fin, que c'était la fin de la guerre, c'est si bête de mourir maintenant. Il faut tenir quelques semaines, mais est-ce que ça vaut la peine? Parce que est-ce que même si on tient quelques semaines et qu'on est libéré, on redeviendra un être normal? Très grande angoisse par rapport à ça. Nous avons à ce moment-là espéré que les Russes arriveraient suffisamment vite pour nous libérer et nous trouver vivants. Mais nous n'imaginions pas. Et c'est pour ça que j'en parle, que dans cette période où vraiment on voyait, depuis plusieurs jours déjà, l'armée allemande, c'était la débâcle, enfin on voyait le long de la route les troupes allemandes se retirer vers l'arrière, nous voyons les SS tout à fait démoralisés, c'était vraiment un spectacle de retraite tout à fait étonnante. On a même vu d'ailleurs sur cette petite route où était notre camp, et qui était une route qui allait vers Cracovie, des chameaux passer, que les troupes allemandes avaient dû prendre dans aux soviétiques. Alors nous pensions bien que les Russes arriveraient très vite, l'armée russe qu'on entendait, et la nuit on voyait la lueur du front, ou que les Allemands nous extermineraient sur place. Mais pas que dans cette débâcle, ils nous mettraient tous, Il nous ferait d'abord marcher pendant, je sais pas, 70 kilomètres, je sais pas exactement. Enfin, on a marché deux jours jusqu'à Gleiwitz. Et puis qu'à Gleiwitz, on resterait une journée, c'était un peu plus à l'intérieur. Et qu'ensuite, alors qu'ils ne pouvaient pas évacuer toutes leurs troupes, ils évacueraient les prisonniers dans des trains. Et la libération est arrivée. Je crois le 15, le 17 avril, dans ce contexte dont on ne pouvait même pas se réjouir, parce qu'on ne savait pas du tout si on survivrait. Et d'ailleurs, beaucoup de déportés sont morts à Belzen après la libération. Beaucoup.
Que ce soit les prisonniers de guerre ou que ce soit les déportés, nous ne rentrons que presque un an après la libération du pays. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses et les prisonniers de guerre, en général, rentrent très vite, mais les déportés, volontairement, je crois, assez tardivement. Volontairement, notamment, d'abord parce qu'on donne la priorité aux prisonniers de guerre, et puis parce que dans beaucoup de camps, il y a le typhus, et qu'on ne tient pas à ce qu'il y ait des épidémies de typhus en France, puis on ne sait pas très bien quoi en faire. Enfin, on a peur que parmi les déportés se mêlent un certain nombre de déportés, réellement aussi, mais d'autres pays, et profitent de cette occasion pour venir en France. Il y a donc un regard assez policier, assez méfiant vis-à-vis de ces déportés. Et puis aussi, il faut bien dire qu'il y a tout de même un choc, on ne se rend pas du tout compte à ce moment-là que sur le nombre des gens, qu'il s'agisse des résistants ou qu'il s'agisse des juifs, qu'il y en a tout de même très très peu. Et on se dit, est-ce qu'on va en retrouver? Comment ça va se passer?
Je crois que de toute façon, ce qu'on a vécu est tellement hors du monde, différent qu'on ne peut pas le faire comprendre, et que nous sommes à la fois obligés d'en parler. C'est une nécessité, c'est une promesse qu'on a faite, c'est un engagement, et en même temps chaque fois frappé de ce que c'est une expérience incommunicable, et que quand les gens nous en parlent, posent des questions, ils sont consciemment, enfin, sans le vouloir, à côté de la plaque, et que quand même, quand ils croient comprendre, ils comprennent différemment, parce qu'on pense à la souffrance physique, on pense à tout ce que nous avons pu vivre, et que nous, ce n'est pas à ça qu'on pense. Au fond, la faim ou la soif qu'on a vécue ou le travail très dur. Ce qui était le plus terrible, c'est cette humiliation permanente, ce sentiment de déchéance, et d'essayer de lutter contre.
Confused, but he's still as they gather around him. So many of them, they all sing about the pleasures of life, and he cries, why can't I sing along with some feeling or some meaning? It feels like I've always been blind. I don't know why you girls are so kind, but there are so many. Maybe the air, there was no more despair. Just something about that night. Maybe the girls, they lit some light and made everything right. 'Cause he's never been
Et c'est avec Tamino, Indigo Night, que nous nous quittons ce soir pour le premier épisode de cette semaine consacrée à Simone Veil, en espérant vous retrouver demain. Merci à la famille Veil, merci à Sandrine Bonner pour sa lecture des extraits du texte intitulé « Une vie » de Simone Veil, édité en 2007 par les éditions Stock et aujourd'hui disponible depuis 2009 grâce au livre de poche. Vous pouvez retrouver sur le site de l'Heure Bleue, sur franceinter.fr, deux témoignages inédits autour de l'héritage de Simone Veil, de David Teboul et Samia Essaba. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, merci à Élodie Royer et Anne-Sophie Dazard, et merci à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.